Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Un condensé des meilleurs moments de Debout les comiques en format balado. Debout les comiques, juste le meilleur.
Debout, debout.
Station Cogeco, on a décidé de prendre initiative et d'essayer d'aider ceux qui aident. On le fait souvent. C'est un peu dans nos rôles aussi, comme je dirais, comme une contribution à la société. On a un radiothon aujourd'hui. Un radiothon pour ramasser des fonds, pour venir en aide aux femmes qui sont victimes de violences. Puis on le sait, les besoins sont criants là-dedans depuis le début de la pandémie. Ils se sont accentués, ces besoins-là. Et on veut donc aider. On est inspiré, malheureusement, par un 10e féminicide qui est arrivé, qui était rapporté en fin de semaine, une femme de 38 ans qui s'est fait tuer par son conjoint. C'est drôle parce que j'en jasais plus tôt ce matin avec Tammy, puis je me disais, je ne sais pas par quel bout de prendre cette discussion-là avec vous autres. Je me sens démuni par rapport à cette situation-là. J'ai l'impression que je ne suis pas capable d'intervenir. J'ai l'impression que toutes les flashs que j'ai, en pensant que ça pourrait aider, j'ai l'impression que après deux tours de réflexion de hamster de plus dans ma tête, c'est bien cave. Des fois, je me suis dit, on devrait pogner ces gars-là puis leur faire le pire. Tu sais, notre premier instinct de tata, en fait, on va se le dire, c'est pas comme ça qu'on va le régler le problème. Après ça, tu te dis, le gars de 40, 35, qui a ce problème-là dans la tête, on va-tu le régler pour vrai? Je pense que c'est la police qui va y parler. Je pense que c'est des psychologues qui vont y parler. C'est pas moi. Moi, humoriste, animateur de radio, je me sens démuni. S'il y a un bout où je peux agir, peut-être, c'est Zachary 12 ans. Zachary 12 ans à qui je parle de temps en temps parce que j'ai commencé, parce que Zach a éprouvé l'amour à 5 ans. Moi, mon gars, à 5 ans, j'en avais déjà parlé en onde. Il était follement amoureux. Et avec tous les mécanismes toxiques qui peuvent être impliqués dans une relation amoureuse, il y avait de la jalousie.
Une possessivité,
puis tout ça. Puis j'ai fait « wow ». J'ai commencé là à y parler. Pourquoi j'ai commencé là à y parler? Parce que moi, je me suis fait parler. Parce que moi, j'ai grandi dans une famille. On était 9 enfants. Avec ma mère, il y avait 6 femmes dans la maison sur 11 personnes. J'ai grandi en sachant que les femmes sont pas nos ennemis. Les femmes sont l'autre côté de l'humanité. Pour moi, qui est un gars, on est des partenaires. On n'est pas des propriétaires. On est des amis, des amours. On marche ensemble. Il n'y a rien qui donne le droit à un gars de décider de la vie d'une femme. Jamais. D'un humain en général, mais d'une femme en particulier. Puis je dis en particulier parce que j'ai été élevé avec des vieilles valeurs, peut-être un petit peu. Ces 6 femmes-là m'ont forgé, moi. Ces 6 femmes-là m'ont appris que les femmes sont brillantes. M'ont appris que les femmes sont fortes. Que les femmes sont mon égal. À chaque fois qu'il y a une inégalité qui implique les femmes, je le comprends pas. Moi, j'ai de la misère parce que j'ai poussé là-dedans. Je mesure mon privilège ce matin. Je mesure mon privilège puis je me rends compte d'une chose. Mon père m'a parlé. Mon père me disait, petit gars, viens ici. Puis il m'a parlé parce que je les ai eus peut-être les réflexes, puis il les a vus, puis il les a discernés, puis il a sartelé. Il a sartelé dans ma personnalité, puis il a fait comme ça, on fait pas ça. Puis il m'a dit des affaires, je me souviens, c'est juste son autorité paternelle qui a fait effet sur moi. Il m'a pas expliqué pourquoi, il m'a juste dit, on fait pas ça. Plein d'exemples qui pourraient me venir en tête. Je fais la même affaire avec Zach. Moi, le pari que je prends, c'est sur du long terme. J'ai eu un privilège d'être éduqué comme ça, j'ai pas de mérite tant que ça. Mais le petit mérite qui me revient, en fait, la responsabilité que j'ai, c'est de le donner à mon suivant, à moi, puis de pas tolérer ça. Parce que j'ai grandi aussi en n'acceptant pas. Moi, là, je suis béni. J'ai jamais vu quelqu'un traiter sa blonde de conne devant moi. Parce qu'il aurait pas fini sa phrase. Puis tous mes amis, on est comme ça. J'ai jamais vu quelqu'un mépriser sa blonde de quelque façon que ce soit. Parce que j'aurais pas toléré ça. Puis si je suis témoin de ça, ça se passera pas. Ça va être wow, la lumière va être mise dessus, puis on va vider la question, puis on va avancer. Mais les femmes, c'est l'autre moitié de l'humanité. Puis nous autres, les gars, on a zéro droit sur eux autres. Ma blonde ne m'appartient pas. Ma blonde, là, elle peut partir quand elle veut. Puis c'est comme ça que c'est la vie, là. Ça donne rien de marcher avec quelqu'un quand t'es obligé de marcher avec toi. On va bien plus loin quand on a l'air d'aller de la vie qui est si belle qu'elle avance. On parle à nos gars, on parle à nos filles. On est capable de s'aimer plus que ça. Là.
Le podcast Debout les comiques.
Si je vous dis le campement Notre-Dame, on a tous en mémoire, en fait, ce campement qui avait été avec des abris de fortune érigés le long de l'autoroute, de la rue Notre-Dame, pardon, de l'autoroute Notre-Dame, de la rue Notre-Dame, dans le petit parc qui longe la rue sur un grand, grand secteur, un peu à l'ouest de Pinneuf. Donc, ces campements-là de sans-abri qui se sont réunis l'été dernier. Et ça a été tard dans la saison, finalement. On a, au début décembre, démantelé parce que l'hiver arrivant, il y avait des risques d'incendie. Il y avait un paquet de problématiques qui étaient là. Et on voulait pas que le monde passe l'hiver dehors. En même temps, on est heurté à une problématique de vivre dans la rue. Il y en a qui le font par choix. C'est une réalité qu'on connaît pas. Puis encore là, je me sens démuni, je me sens mal adapté pour réagir à ça. Puis je peux juste les juger. Tu comprends-tu? Fait que je vais garder mon jugement pour moi. Mmh. Et ce qu'on apprenait hier sous la plume d'Hugo Meunier dans Urbania, c'est que ce campement-là est en train de se reconstituer, mais ailleurs.
Mais en plus, Martin, l'affaire, là, c'est que cette année, depuis la pandémie, depuis l'année dernière, il n'y en a plus de logements. Puis ça, vous l'avez entendu à multiples reprises. Hey, on l'a lu partout. Il y a des reportages partout.
Les files d'attente pour une location. Là.
Écoute, c'est épouvantable ce qui se passe. Il n'y a plus rien qui est abordable. C'est surtout ça. C'est qu'il y en a, mais ça coûte la peau des fesses. Mais tu sais, les gens, ils disaient, ceux qui ont été dans le campement, par exemple, disaient, nous, on a tout fait. C'est la première fois qu'on se retrouve sans appartement, sans logement, parce qu'il n'y en a plus à nulle part qui rentre dans nos frais à nous. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se regroupe avec cette gang-là, tu sais.
Et sur cette question-là, d'ailleurs, un des leaders du regroupement, parce qu'ils se sont réinstallés ailleurs, Guylain Levasseur, il dit au gouvernement, subventionnez-nous. Donnez-nous de l'argent pour qu'on puisse se payer un logement. C'est pas bête comme idée, pas en tout, là.
Personne
d'arriver puis un loyer qui est à 1200$, mettons que le gouvernement subventionne au-delà d'un bien-être social qu'il recevrait et d'autres argents peut-être du gouvernement. Oublions pas une chose, avec la pandémie, leur écosystème de survie est disparu, les sans-abri. Quand ils caillent sur le coin de la rue, là,
on n'a plus d'argent
sur nous autres, trois quarts du monde, puis il n'y a plus de monde en ville.
Il n'y a plus de monde dans la rue. Mais tout à fait, les loyers aprimodiques, les coopératives, il faut y aller, il faut qu'on le fasse. Mais tu sais, la solution alternative cet automne, c'était de les loger à l'hôtel des gouverneurs, tu sais, pas loin de Berry UQAM. Mais c'est ça qu'il disait encore là, c'est une solution temporaire. On a besoin d'une solution à long terme.
Oui. Parce que c'est ça qu'ils disent. La ville nous a promis 12 000 logements sociaux, mais ça, c'est à long terme. Dans mais là, présentement, là, dans la crise d'urgence, ils ont besoin de quelque chose là.
Les autres, donc, ont décidé de se regrouper encore en campement. Ils sont déplacés cette année. On va l'appeler le campement Hochelaga. Et Guylain Levasseur, qui est un de leurs porte-parole, lui, il a été démantelé l'automne dernier. Lui, c'est un leader dans cette communauté-là. Lui, il a organisé 3000 repas pour ses amis. Il faisait des grandes bouffes. Il dit, on va s'installer un spot à feu là-dessus.
Officiel.
Officiel. Il y a des gens aussi autour qui leur prêtent main forte, entre autres la compagnie Speedex, qui est pas tellement loin, qui vont les rejoindre avec du ravitaillement. Il y a une entreprise qui jouxte le terrain sur lequel ils s'installent. Les gens du campement sont allés chercher la poubelle. Ils ont ramassé la poubelle. Les autres, ils ont fait comme, on va reprendre notre poubelle, mais on va vous donner un autre contenant qui peut faire la job. Ça se passe bien. Le voisinage est heureux. Rappelons-nous, c'était quand même violent, on va se le dire, en décembre dernier. En 15 minutes, ils ont été sommés de partir. Ouais. Il y a des gens là-dedans qui ont perdu toutes leurs maigres possessions.
C'est ça qu'ils disent, nos objets, on les a pas retrouvés après. Ouais. Là, c'était vraiment compliqué de faire qui est à quoi et où les retrouver.
Puis tu sais, je pense à voix haute, là, mais mettons qu'à la place de subventionner les personnes qui se retrouvent à vivre sur ce campement-là, on subventionne des propriétaires d'appartements qui sont vides puis qui n'arrivent pas à trouver quelqu'un. Puis on leur dit, garde, on va payer la portion du loyer que la personne ne peut pas payer, que le locataire ne peut pas payer. Mais peut-être que comme ça, il va y avoir plus de gens dans plus d'appartements, tu sais.
Mais on dirait que des apparts vides à Montréal.
Je pense qu'il n'y a pas ça, des apparts vides.
Mais il y en a quelques-uns quand même. Il y a beaucoup de commerces vides, en fait. Il y a beaucoup de marchands qui font ça, là, plutôt que de louer. Ils décident de garder le commerce. C'est un autre problème. Commerce fermé. Ouais.
Ceci dit, on n'a pas fini d'en entendre parler, j'ai l'impression, parce que c'est un phénomène qui est là. On ne veut pas que ça se bidonvillise. Je ne sais pas si le mot existe, là, mais que ça devienne ça. Je pense qu'il y a quelque chose à aller régler de ce côté-là.
Il y a quelque chose d'absurde. Tu veux pas qu'ils s'organisent, mais en même temps, vu qu'ils sont pas organisés, tu vas vouloir les tasser de là parce que c'est dangereux.
Le podcast Debout les comiques.
Oui, allô, c'est quoi?
Oui! Salut Gisèle!
Oui, salut Gisèle!
Je suis dans ma pause à l'hôpital. J'ai un étage des Pierre Aurin, on joue à roche, papier, ciseaux. Ils ont la roche, j'ai le papier et les ciseaux. Mais là, c'est l'heure de mon bulletin de nouvelles dans la salle d'attente.
On bon ça!
Vous écoutez le canal Gisèle avec...
C'est l'histoire de Gisèle, l'infirmière, qui est dans sa pause à l'hôpital. Les autres disent qu'elle se pogne le derrière pendant qu'il roche en salle. Il court à gauche, court à droite, des patients pis des civières, des bobos, des jaquettes, soluté, cathéter, la COVID, sa planète, pas eu de vacances de l'hiver, pis moi, j'ai regard de fer.
J'suis dans ma pause ici! J'suis dans ma pause ici!
J'aurais pris la version longue de cette chanson-là.
C'est pas d'orythmie le matin, ça fait toujours du bien.
Ça swing le canaillet!
Bon. Il faut la garder, il faut la rejouer.
Elle est très bonne.
Merci beaucoup, mon Dieu, j'ai pas l'habitude.
Elle est pas sa note, mais elle est très bonne.
La note, c'est surévalué, Martin. Ça, c'est une affaire de musicien que vous comptez, mais ça existe-tu vraiment? Faites vos recherches. Bonjour, cher patient! Bonjour, chère patiente! Et bonjour à Carey Price, à l'étage des commotions cérébrales, couché dans le noir, qui a vraiment hâte que j'éteigne ma lumière Budweiser.
C'est
voici vos manchettes. Au Québec, il y a 800 000 personnes de 45 ans pour 200 000 vaccins AstraZeneca. Excellent calcul! Je sais pas qui a organisé ça. Probablement le gars qui a la quantité des PlayStation 5 ou qui s'occupe du papier de toilette chez Costco ou encore le cocoton de Laval. Bien joué, tout le monde! Mais Martin, ça a l'air de ton rendez-vous.
Et mon rendez-vous, midi 45 aujourd'hui.
Chanceux.
T'es déjà en train d'organiser l'équipe de forage.
Oui. Ça prend un Derrick.
Montréal! Bon, encore des jokes, faut qu'on Google.
Mais c'est toi, t'es dans le forage. T'es dans le même. C'est parce que si tu fais une joke, c'est un sujet que tu connais pas. Femme ta gueule,
Gisèle. Mais non, mais là, un moment donné,
tu parles de forage.
Ouais, s'il faut tout connaître. Voyons donc, tu fais les sports.
Hey, Gisèle, sais-tu quoi? Gisèle, fais tes recherches.
Montréal va honorer Camille Lorrain, le père de la loi 101. T'as l'air qu'ils vont faire un beau driveway bien sharp avec des gates. Là. Il va être super content. Ça va être le fun.
C'est cool.
C'est sharp.
Colorado va autoriser ses citoyens à transformer leur dépouille en compost pour jardin. Cette recette-là me rappelle grand-maman. Après 50 ans, dormir moins de 7 heures pourrait mener à la démence. Et ça va, Martin?
Me couche tard, me lève tôt, j'ai 51.
Je vous le dis, YouTube m'a vu à Chicago.
Derrick.
Il est quelle heure, c'est pas grave, c'est des détails.
On sent pas de mépris du
Dominique
tout.
A jamais existé. À qui tu parles, Martin? Je dis, Dominique est là. Non, il n'y a pas de Dominique. Anyway. Le bateau qui a bloqué le canal de Suez a créé un retard dans la livraison des jouets sexuels. Quand même ironique que le fait de bloquer un canal empêche d'autres personnes de bloquer un autre canal.
Les orifices.
Et finalement, une influenceuse du Brésil enflamme la toile en se préparant un smoothie avec son placenta. Valérie! T'as seulement quelqu'un dans ton entourage qui peut t'aider à trouver une recette.
Oh, c'est malsain.
C'est tout pour vos informations. Je vous laisse. Je vais au palais des congrès en char jaune. Comme ça, dès que quelqu'un sort de son vaccin, paf, faut y donner une bine.
Des comiques, de retour après ceci.
Debout les comiques. 96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
Oh mon Dieu, je vais me confier. Ce qui arrive là, c'est que là, la vaccination est ouverte aux 45 ans.
Ça te sort du garde-robe malgré toi concernant ton âge.
45 ans et plus. Et je suis vraiment contente aujourd'hui, 21 avril, d'avoir 45 ans à cause de ça. J'ai accès au vaccin. L'affaire, c'est que il y a quelques années, je dirais 3 ans, j'aurais pas pu avouer que j'avais accès au vaccin, mais j'ai changé. Pendant des années, j'étais née en 1977 plutôt qu'en 1975. Okay? Tous mes amis, je mêlais même des oncles et des tantes. J'avais de la difficulté à mêler mes parents, mais ça arrivait quand même parce que pour mon frère est né en 77, alors j'avais une entente avec lui. Avec lui, je disais, écoute, c'est simple.
Vincent. T'as une entente avec ton frère?
Oui. Vincent est né en 79, moi je suis né en 77. Come on, man. Et mon frère, il embarque, bon joueur. Puis ça a toujours été comme ça, ce qui fait que...
Incroyable.
C'était ça la vie. Puis des fois, tu sais, des grandes conversations avec les matantes. Ben non, ma marraine qui disait, ben non, j'ai eu ma fille à telle année, vous avez tant de... Énormément. Mais je réussissais, tu sais, appeler ça la mythomanie. Je cachais pas mon âge, mais j'avais juste besoin de 2 ans de plus pour faire ce que j'avais à faire. Mais un jour, en 2015, je me retrouve à l'émission de Pierre Yvelard, Le Bon Mix, tournée chez lui, en complicité avec Patrice Plante qui faisait des mix, tout ça. Et c'est en 2015, donc si je suis née en 75, j'ai vraiment 40 ans à ce moment-là. Et on tourne au mois de juin, tu sais, puis moi, je suis née dans ce mois-là. Et Pierre Yves, un moment donné, pendant l'émission, fait « Et Tammy, on a une surprise pour toi. On a appris que tu fêtais tes 40 ans, donc ce mois-ci, nanana. » Il sort le gâteau. Et moi, étant, tu sais, ayant cultivé ce mensonge-là pendant plusieurs années.
T'as pas 40 ans, toi?
Non. Je me bloque, je me braque.
T'as 38?
Et je dis non, tu te trompes. Interruption de tournage, toi. La réalisatrice, c'est qui est Caroline de la Ronde, c'est la sœur de Stéphanie de la Ronde avec qui je suis allée au secondaire, qui fait, mais t'as le même âge que ma sœur. On habitait dans le même quartier qu'elle avait. Et là, je fais, non, ben c'est ça, non, c'est parce que moi, j'ai tout mon chemin, là. J'ai sauté une année. Moi, j'ai pas la même âge que ta sœur. Alors, on reprend le segment. L'affaire que je sais pas, c'est que ma tante est cachée dans le sous-sol en bas. Parce qu'ils veulent me faire une surprise et c'est
incroyable.
Elle qui leur a refilé l'information. Mais elle, quand elle apparaît après, là, tu sais, elle m'explique, mais voyons, j'étais sûre que t'avais 40 ans. Mais voyons, et elle aussi s'obstine avec les dates. Mais je vous le dis, pendant plusieurs années,
vous avez jamais tourné ta fête?
On a repris le segment, j'ai retardé le tournage.
Ils ont remballé le gâteau?
Ouais. Et plusieurs temps après, j'ai avoué à P.Y. que j'avais...
Mais il devait être fâché.
Incroyable!
Ben, écoute, c'était fait, mais P.Y., il comprenait... Ben oui, mais pourquoi?
Moi, je comprends toujours pas.
Ben oui, mais quand t'es dans quelque chose, t'es cohérent jusqu'à la fin, tu sais. Je m'en fous, moi, que ça a coûté 100 000 pièces de plus.
J'attends, elle, comment elle réagit quand elle...
Ben, elle est encore mêlée à ce jour. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont lâché prise puis qui ont fait, garde, t'auras l'âge que tu veux puis garde, tu seras jamais fêté parce que ça nous fait chier, tu sais.
Est-ce que tu vois ça comme un problème ou comme un super pouvoir? J'en penses-tu que tu serais capable de mentir dans n'importe quelle situation puis t'en sortir?
Moi, Billy. Je pense que je suis capable de mentir dans plein de situations. Et des fois, je cherche le trouble parce que je veux...
Tu veux défier ça?
Billy Tellier,
tester ça?
Avoir à mentir un policier, une personne d'autorité,
ben non,
un juge. Ben, j'ai déjà contesté un ticket, puis je suis allée tester certaines petites affaires. Hey, mais... Mais oui, mais c'est le fun de jouer.
Faites pas comme gagner les enfants.
Ta vie est extraordinaire.
J'ai une vie plate. J'étais avec le même gars depuis plusieurs années. J'ai eu un enfant trop jeune. J'ai jamais fait de trip de drogue. Garde, c'est ça, ma folie d'envie. Ça, pour faire un peu d'excès de vitesse.
C'était quoi le film avec Kevin Spacey, là, qui... Genre, il y avait une vie monotone, puis...
Ben oui, c'était Usual Suspects.
Ah non, c'était Beauté américaine.
C'est Beauté américaine.
Beauté américaine, ouais. Exactement.
Je suis pas attirée par les jeunes garçons.
Ceci dit...
c'est pas leur âge.
Je mélange encore une affaire.
Le podcast Debout les comiques.
Vous savez, mesdames et messieurs, la violence conjugale, ça n'a pas d'âge. Au Québec, en 2015, il y a 4 femmes sur 10... sur 10 victimes de violence conjugale, qui étaient âgées entre 18 et 29 ans. Et la violence entre conjoints se manifeste aussi chez les plus jeunes. Selon l'Institut de la santé publique du Québec, la violence conjugale touche 25 % des jeunes de secondaire 1 et le tiers des élèves de 3e à 5e secondaire. Comment ça se peut? Qu'est-ce qu'on peut faire? On va jaser avec Florence Marcel-Denot, qui est psychologue spécialisée avec les ados et jeunes adultes. Salut, Florence!
Salut. Allô, salut.
Hey,
allô.
Merci de prendre du temps pour nous.
Oui, merci. Puis les chiffres que Martin vient de mentionner sont vraiment pas le fun à recevoir. Qu'est-ce qui fait là, qu'un jeune accepte de vivre ça et forcément qu'un autre jeune commette des gestes de violence physique, psychologique, sexuelle, Florence?
on dirait que j'ai comme le goût de dire, c'est mon côté optimiste, que quand même, c'est les relations amoureuses là à l'adolescence, à partir de 15 ans, c'est un jeune sur deux. C'est franchement plutôt positif et souhaitable. On dirait que je veux commencer avec ça parce que tout est gris ces temps-ci, puis on est triste, mais bon. Alors oui, ça peut virer mal, surtout de la violence psychologique, moins la violence physique. Là, c'est plus un jeune sur sept qui va rapporter des violences sexuelles ou physiques. Donc, beaucoup psychologique à l'adolescence. Les filles aussi vont faire la violence psychologique. Pourquoi ça arrive? C'est beaucoup une question d'immaturité affective, mais c'est beaucoup une question de modèle aussi. Mmh. Alors, quels sont les modèles de relations amoureuses autour de nos jeunes? Qu'est-ce qu'ils voient à la maison? Qu'est-ce qu'ils voient à
la comique, de retour après ceci.
Comment les émotions sont régulées à la maison? Comment on s'exprime l'un à l'autre? Est-ce qu'on s'insulte? Alors, comment, tranquillement, pas vite, l'ado s'est développé une représentation de ce que c'est que l'amour et comment on aime? Et si c'est de cette manière-là, ben probablement que ça vient dans quelque part.
Oui, c'est ça. Mais Florence, il y a des jeunes qui nous écoutent le matin comme ça. On le sait, ils nous écrivent, leurs parents nous écrivent aussi. Puis comment est-ce qu'on peut leur faire comprendre à ces jeunes-là que c'est pas parce que ton amoureux ou ton amoureuse se donne pas de coups que c'est pas de la violence, tu sais, que c'est pas correct une relation comme celle qu'on décrit là?
Ouais, il y a toutes sortes de comportements assez classiques. Des fois, je vais entendre des parents qui vont attraper des textos, ils voient des textos passer ou même à la maison. Ça va être une façon de se parler aussi, une façon de manipuler l'autre, une façon de faire parfois du chantage, de vouloir contrôler, d'aller contrôler aussi en ridiculisant d'une certaine façon. Ça pourrait être de ridiculiser les vêtements. Après ça, c'est étrange parce que hein, la personne aime. Donc, mais c'est comme si tranquillement, pas vite, elle voudrait aimer de plus en plus tout seul. Donc, isoler la personne, vouloir la voir juste pour elle à la maison, la contrôler. Mais c'est vraiment derrière ça. Puis je pense même aux adultes après, là, beaucoup les hommes sont dans la violence conjugale, physique, mais c'est beaucoup une question d'immaturité. C'est vraiment un problème de se réguler à l'intérieur, donc de faire face à des émotions, parce que l'amour, là, c'est difficile. Hein? Oui. C'est bien beau, c'est rose avec des beaux cœurs, mais il reste que d'apprendre à vivre avec une personne, c'est d'apprendre à respecter ce qu'elle est, puis d'apprendre beaucoup, beaucoup aussi ses différences. Donc, elle n'a pas envie de faire ça, nous, on a envie de faire ça. Comment on va faire pour se parler, puis parler de ce conflit-là? Donc, on parle jamais de ça, mais dans l'amour, c'est beaucoup, beaucoup une question de communication, une question de gestion de conflit, une question de tolérance, de la différence avec l'autre. Et on a encore beaucoup, je trouve, là, dans mon cabinet, de stéréotypes avec les émotions, particulièrement chez les hommes, comme s'il faut tout le temps être fort, faut pas être vulnérable. Et puis, si on n'arrive pas à ressentir à l'intérieur de soi toutes ces émotions-là, grises, là, la tristesse, la vulnérabilité, l'impuissance, on risque d'aller projeter ça en agressivité sur l'autre. Donc, c'est ta faute si tu m'as fait sentir de cette façon-là. Tu n'as pas le droit de me faire sentir de cette façon-là. Puis moi, je vais te le montrer, je vais te contrôler.
C'est tellement important ce que
Florence,
tu dis.
Écoute, j'ai l'impression qu'on pourrait se parler pendant des heures et des heures.
Oui,
y aurait
c'est un sujet vraiment préoccupant que j'entends beaucoup, beaucoup dans mon bureau, je dois l'avouer.
Ouais.
Est-ce que, en 30 secondes, j'invente un peu de temps, là, mais moi, je t'écoute parler, ces jeunes-là, j'entends de la maladresse à gérer tes émotions à travers l'amour ou le jeu de l'amour, apprendre à jouer à ça là, dans la vie. Là,
tout à fait, bien dit.
Ça touche-tu les gars, les filles autant ou tu sens plus que c'est encore déjà un comportement de gars, là? Sans vouloir classer, mais je veux comprendre.
Vraiment dans mon bureau là, puis c'est ça. Je sais que c'est fragile, c'est délicat, mais dans mon bureau vraiment là, chez les jeunes, c'est vraiment les garçons puis les filles. C'est pas juste une affaire de gars, pas du tout. C'est vraiment une question de maladresse d'un bord et de l'autre. Comment on fait pour à l'intérieur de soi identifier qui on est, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on aime puis qu'est-ce qu'on n'aime pas, puis après ça le dire. Puis combien de fois j'entends tous les jours que je vais préférer me faire deviner, je vais préférer ne pas le dire, je vais préférer me refermer plutôt que de tenter d'exprimer qu'on n'aime pas ça, ce qui est en train de se passer. Voici ce que je préfère. Voici ce qu'on va. Bon. Et puis pour un parent qui verrait ça, allez-y. Hein, je suis tellement enflammée.
Ouais, ben oui.
Non, mais parce qu'on rappelle que tu travailles auprès des jeunes, ouais, des adolescents, tu sais, que donc pour toi il y a une parité. C'est-à-dire que tu autant comportement des filles que des garçons, tu vois ça. Par contre, à l'âge adulte, ben là, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Il y a une gestion. Peut-être les filles réussissent à faire une introspection ou à se guérir de ça. Je sais pas, mais.
Oui, absolument. Puis c'est vrai que c'est souvent ce qui ressort. Les femmes consultent plus aussi. Puis il y a vraiment, vraiment du chemin à faire au niveau, encore une fois, là, du genre. Parce que c'est comme si pour la femme, ça devient acceptable de parler des émotions, de parler de ce qu'elle ressent. Puis de l'autre côté, il y a encore quelque chose d'assez solide, hein, qui est la force dominée, le contrôle, même la colère. Et donc, c'est comme si on n'encourage pas, en quelque part, là, tous ces hommes-là à aller réfléchir à, voyons, mais c'est quoi qui monte à l'intérieur de moi qui fait que je suis jaloux de même? Comment ça fait que je l'aime tellement, ma femme, tu sais, puis aussi ces femmes-là qui restent dans ces couples-là, c'est que l'homme, il est parfois très amoureux, très adéquat quand il n'est pas choqué. Et c'est ça qui devient complexe.
C'est très clair.
Oui, ça devient très difficile pour ces hommes-là de tolérer que les femmes parlent à quelqu'un d'autre, s'habillent, ont des intérêts. Tout ça se met à les menacer. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment des grosses, grosses défaillances au niveau de la maturité affective puis de la capacité à parler de soi, à parler de quand ça va pas bien et à ne pas tout transformer ça en colère, en geste, puis à mettre tout ça en action.
Ouais. Florence, c'est le temps qu'on avait. On t'embrasse tellement fort.
Merci beaucoup. Et
merci d'avoir pris du temps pour nous. Ça nous fait toujours du bien. Florence Marcille Deneau, à qui on vient de jaser, psychologue auprès des enfants, les ados surtout. Et on parle de cette difficulté à aimer ce matin. On est en plein radioton. On essaie de ramasser des fonds aujourd'hui, toutes les antennes de Cogeco, pour aider ceux qui aident à la violence conjugale, la violence faite aux femmes.
Exactement, Martin. Comme tu l'as dit, c'est le premier radioton pour l'amour. Toutes les stations du réseau Cogeco vont parler de violence conjugale aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce qu'on vous demande, c'est de faire un don à SOS Violence Conjugale. Ça, c'est une solution concrète pour qu'on puisse s'en sortir. Et c'est très facile aujourd'hui. Vous vous rendez sur lecicois.com pour tous les détails.
Le podcast Debout les comiques.
Julie Fay Beausoleil, on parle avec notre amie qui habite au Pays des Merveilles. Allô, Julie Fay!
Bonjour, les amis. Quelle joie de vous voir.
Oui.
Votre présence me fait couler des larmes de bonheur qui forment de belles grosses crottes d'œil d'allégresse sous mes yeux. C'est moi, vous m'avez reconnue. Julie Fay Beausoleil.
Oui.
Celle qui habite au Pays des Merveilles. Ici, tout le monde est heureux. Aussi heureux, en fait, qu'un enfant à Phontropolis ou que Billy à Scotchpolis.
Oh oui, je vais aller là.
Mais malheureusement, je dois vous dire, le Pays des Merveilles est victime de l'étalement urbain.
Non!
Oh oui, le royaume du fort, fort lointain est devenu le royaume du sacrement, c'est pas à porte. Mais on garde quand même le moral. Vous le savez, c'est le début de la saison des talk shows d'été.
Oui.
Au Pays des Merveilles, on prépare justement notre propre émission. Sucré, sucré, sucré. Ouais. C'est le juste milieu entre bonsoir, bonsoir et un trip d'acide à Disney on Ice. Je sais que vous avez honte de dire que vous l'avez déjà fait, mais vous avez le droit d'avoir déjà regardé Bonsoir, Bonsoir.
Oh oui, hein, okay.
Oh oui, n'ayez pas honte.
J'aime mieux qu'on parle de l'acide.
Ça, tu peux avoir honte, hein?
Oui.
On a parfois de petites pépins techniques dans nos tacs chauds d'été.
Ah oui?
Oui, par exemple, il y a eu deux morts quand Pinocchio a juré qu'il était content de faire de la montgolfière avec Brigitte Boisjoli. Et c'était peut-être pas une bonne idée d'emmener Humpty Dumpty faire du roller derby. Oh, merci sound effects. On a plusieurs chroniqueurs dans notre émission de talk show d'été, comme la reine maléfique qui donne des conseils de beauté.
Ah bon?
Mais si vous devenez plus belle qu'elle, elle envoie un chasseur vous arracher le cœur. Bref, elle est à peine plus amère que Jean Héroldi. À peine, à peine. On a aussi le grand méchant loup qui nous présente ses recettes de grand-mère dans sa rubrique « Trois vieilles par jour ». Vous devez absolument goûter à ces biscuits à la mémélasse.
Oh,
on parle de cannibalisme ici. Non, c'est un loup, c'est correct.
Ah, c'est drôle. Il a tous les droits, ce loup. Et après, on va te chercher dans son ventre. Hey, oui. Ne manquez surtout pas l'émission parce qu'on a reçu une belle critique juste et de bonne foi de Hugo Dumas. C'est vraiment parce qu'on est au pays des merveilles. Hein? Bon, je vous laisse.
Ah, pas déjà? Ah.
Oui, je dois vous laisser. Je pars dans cette poudre de perlimpinpin là-bas où on m'attend. Et pour l'émission, je dois préparer un reportage sur un spectacle de musique. Oui, ah le bon? Vilain petit canard a mis un tuxedo et il fait des covers de vilains pingouins. Ah, je vais aller voir ça. Allez, au revoir les amis.
Salut jolie fée beau soleil.
Bye.
Le podcast Debout les comiques.
On est en plein débat malgré tout. On s'entend pas, toi puis moi. C'est un père de famille qui a un peu pété les plombs.
Ben, je suis d'accord avec lui. Il revient à la maison. La gardienne avait juste une chose à faire, empêcher sa fille d'aller dans un endroit où il y avait sa guitare accrochée. La gardienne a décidé de prendre un appel pendant 20 minutes. La petite a été décrochée la guitare, l'a brisée. Le père veut un remboursement de la guitare par la babysitter. Et elle ne veut pas. Alors, qui a tort, la gardienne ou le père?
Il faut qu'elle soit responsable de ses gestes, moi, je pense. C'est elle qui avait en charge de la supervision des enfants.
Elle avait une chose à faire.
Ouais, elle avait une chose à faire. On va aller au téléphone parce que vous allez vous prononcer. Il y a Valérie qui est là. Salut Valérie!
Salut!
Valérie, allô? Toi, t'as un enfant de 3 ans, donc tu ferais quoi? T'es celle qui engage la gardienne, t'es le parent. Tu te situes où là-dedans?
Ben en fait, là, c'est parce que c'est une guitare, puis le parent, vraiment, il l'a pas bien placé, ça, je l'avoue. Mais la petite fille, ça surveille l'enfant qui joue dehors, puis qu'elle va prendre un appel de 20 minutes, puis qu'elle revient, puis le petit gars, ou la petite fille s'est fait frapper. C'est qui est responsable?
Ouais.
Ah, ça serait clairement,
ça peut être pire, là.
Mais là, c'est parce qu'on parle d'un objet, mais reste que la petite fille, elle a pas fait son travail. Moi, si je sais que la petite fille regarde pas mon enfant, elle reviendra pas chez moi.
Que non, c'est ça.
Que ce soit une poterie qui valent rien, ça reste la même chose. Elle a pas surveillé son enfant. Puis comme
ça, c'est sûr.
Ouais, t'as raison.
Je dois avouer, Valérie, que ton enfant n'est pas né. Parce qu'à 3 ans, il dit qu'il y a un enfant.
Non, mais si tu sais pas des indications.
On va des crottes à manger, là, pour
t'es naïf.
Pour qui t'es coupe, ouais.
Ben, je vous garantis que mes sacs à main griffés vont être pas à portée de mon enfant,
tu sais. C'est ton rôle de parent, mais ta gardienne, elle, qui doit regarder ton enfant. Si ton enfant te brise quelque chose, ou même si ton enfant, je sais pas, au moins, il sort dans la rue.
Ouais.
Il va être fâché après la gardienne. Donc, selon moi, c'est la gardienne qui est dans le temps.
Très clair. Merci beaucoup, ma chère Valérie. Il y a déjà Marie-Claude qui veut réagir aussi. Marie-Claude, salut!
Allô?
Marie-Claude, le père, as-tu raison de charger quasiment 3 000$?
Ben non, elle n'a pas raison de charger 3 000$. Là. Premièrement, moi, j'ai 3 enfants, puis j'en ai un qui est super actif, puis j'en ai une guitare qui m'a pété, puis je peux te dire que... Des fois, on n'a pas les yeux tout le tour de la tête. Ben ouais. Elle avait pas à répondre au téléphone à ce moment-là parce qu'elle regardait l'enfant.
Ouais.
Mais elle aurait pu avoir le dos tourné un 30 secondes. Puis la guitare aurait été quand même prise et brisée par l'enfant.
C'est
pas le temps, effectivement. Hey, Marie-Claude, merci. Ton point est très, très clair. Puis pour vrai, en définitive, la vraie affaire, je pense que la petite fille, elle a eu sa leçon. Elle a pas à payer rien. Puis comme adulte, le père, le papa, propriétaire de la guitare, il prend ton gaz égal.
Est-ce que tu la payes pour le temps qu'il a gardé?
Ben oui, je la paye quand même.
Non. Là, il y a des limites.
Il n'y a pas de limites. Franchement, un accident, ça peut arriver à n'importe qui. Là. J'ai reviré de bord, vous allez dire, oui, j'ai un cœur après tout.
Attendez, là, sur le Facebook, c'est quoi? Les Lauriers dit, si t'as quelque chose d'une grande valeur, tu t'arranges pour ne pas mettre ça là où on pourrait, où ça pourrait tomber par accident.
Et tu l'assures.
Un accident, ça peut arriver à n'importe qui, tu l'assures en plus. Mais, Martin, j'ai l'argument final qui va malheureusement te détruire.
Ah bon?
J'ai sorti un extrait de l'émission La Facture qui répond à la question suivante. Est-ce qu'un employeur peut exiger d'être remboursé par son employé pour les dommages causés au matériel de l'entreprise? Dans ce cas-ci, l'entreprise étant la maison, on écoute.
Non, c'est...
de ce qu'on appelle les frais d'opération. Et en vertu de la loi sur les normes du travail, un employeur ne peut exiger de ses salariés qu'il rembourse ce type de frais.
Alors, tout le plaisir est pour moi,
ça n'est
Martin.
Rien, en fait. Là, tu viens juste de mettre le feu pour aller plus loin dans mon argumentaire. Pour vrai, c'est pas une job d'entreprise, là. Je veux dire,
c'est
le parent,
job.
Est-ce qu'il paye?
Non,
ça n'a pas rapport. Ça n'a aucun
est-ce
rapport.
Est-ce que c'est
là,
déclaré vraiment?
Ben non, exactement, c'est en
elle
dessous de la table.
Elle déclare à ses parents, parce qu'il faut qu'ils viennent la chercher après.
T'es comique? De retour après ceci.
Debout les comiques! 96.9, c'est quoi?
le podcast Debout les comiques.
Je déclare le tribunal populaire ouvert.
Pas cool, Martin.
Mais ça arrive des fois.
À l'ordre. Okay. J'adore le tribunal ce matin. J'ai vu l'histoire passer sur Internet. C'est un père qui a demandé conseil aux internautes. Il a dit, écoutez, moi, j'ai fait garder mon enfant avec une jeune gardienne de 19 ans. Je lui avais dit, c'est très important qu'elle n'aille pas dans certaines pièces.
Son enfant, donc?
Oui, son enfant. Okay. Oui, vraiment son enfant qui est en bas âge, là, ouais. Tu sais. Et la gardienne fait pas de problème. Pendant que le père et les parents sont partis, l'enfant, en fait, la gardienne a reçu un appel téléphonique.
Ouais.
Et elle a quitté quelques instants, a décidé de prendre l'appel à part pour pas que l'enfant entende ce qu'elle dit. Ça, c'est ce qu'elle dit. Mmh. Pendant ce temps-là, l'enfant a été dans la pièce qu'elle ne devait pas aller, a décroché la guitare et a cassé la guitare. Le père charge plusieurs milliers de dollars à la babysitter, à la gardienne, pour qu'elle répare la guitare.
C'est 1 500 €, là, on va se le dire.
C'est à peu près 3 000 $, là. On n'est pas loin de 3 000 $ canadiens pour réparer cette guitare-là. Et il demandait conseil. Est-ce que je suis le trou de cul de cette histoire-là ou si elle doit vraiment rembourser cette guitare? Parce que je lui avais bien dit qu'il ne fallait pas que ma fille aille dans cette pièce et ce n'est pas la première fois qu'elle gardait chez lui. Alors, est-ce que la gardienne doit rembourser ou si le père doit prendre son trou et assumer que sa guitare est brisée?
Je pense que la gardienne doit rembourser. Je pense que la gardienne doit rembourser parce que, tu l'as dit, le nœud de cette histoire-là, c'est t'as une job dans la maison, t'as une job double. Surveiller mon enfant, surveiller ma guitare pour pas que mon enfant entre en contact avec la guitare. Le premier contrat, ça a été spécifié, tu l'as pas respecté. Je suis obligé de te donner une leçon. Je suis obligé que la vie te serve de leçon et que tu deviennes responsable de tes actes. Moi, je suis un peu du bord du père.
Moi, je suis complètement du bord de la gardienne. Dans ce cas-ci, c'est pas une question de surveillance, c'est une question d'éducation. En tant que papa, t'éduques ton enfant convenablement.
Mais elle a 3 ans.
Mais je m'en crime pof.
Okay.
Tu l'éduques convenablement pour que ton enfant comprenne que la guitare, ce n'est pas touche. Tu y touches pas à cette guitare-là et c'est tout. Tu vas dans cette pièce-là, point final. C'est pas à la gardienne de faire l'éducation de l'enfant. La gardienne surveille ton enfant.
Mais elle a pas
c'est
fait.
Tout.
Tu pourrais ajouter comme argument qu'il pourrait mettre la guitare dans un case, mais on n'ira pas là, ma
Ben aussi. Tu sais, je veux dire, il y a des. Mais là, à la hauteur pour que l'enfant y touche pas. Est-ce niaiseux?
Honnêtement, je suis un peu ébranlé par ton argument. Je t'ai donné moi-même l'argument du case pour vrai. C'est un peu
cave. Merci, Martin.
C'est un peu cave, mais je pense qu'il y a quand même un bout d'éducation à faire. Peut-être que le père ne charge pas complètement parce qu'on s'entend que la gardienne, elle gagne 2 $ là,
ah oui,
sérieusement.
Comment? Non, plus.
C'est un petit salaire, puis un petit peu plus que ça, mais quand même, pour payer 1 500 $, elle doit faire 1 500 $ par année en gardant presque à 3 semaines.
Les gens disent qu'il aurait dû fermer la porte ou barrer sa porte. L'endroit a déjà une barrière. La personne qui surveille, la gardienne, n'a pas fermé cette barrière-là en prenant l'appel.
L'enfant est vraiment possédé, là.
Ben oui, c'est ça, voyons
c'est
donc.
Il veut vraiment
c'est qui cet enfant-là?
Moi, je pense que c'est l'enfant qui devrait rembourser. Mais là, c'est pas ça le débat.
C'est pas nous qui allons nous prononcer okay. tant que ça.
La guitare est brisée. Comment on tranche? Est-ce que le père doit faire, ben écoute, c'est mon erreur, j'aurais pas dû engager cette gardienne-là, puis c'est tout. Ou si c'est la gardienne qui doit subir les torts et rembourser la fameuse guitare puisqu'elle n'a pas surveillé comme faut l'enfant. Mm. On veut vos réponses sur le texto 96.9. Ça déboule déjà sur le Facebook de C'est quoi? Ou encore, vous pouvez nous appeler 514-790-2564.
Les lignes sont pleines. On va faire un gagnant tout de suite pour régler le dans ta face l'outil. Est-ce que t'es prête?
Ben oui, hey, c'est une grande surprise la réponse parce que vous n'avez pas donné beaucoup d'indices, messieurs, c'est ça qui est le fun. Le nombre des adeptes de la marijuana, c'était 420. Le 420, le 20 avril. Et donc, c'est Sylvain Houle qui remporte la partie. Bravo, Sylvain.
Le podcast Debout les comiques.
Depuis que la vaccination est ouverte officiellement au Québec, j'arrête plus de voir des selfies de gens qui se font vacciner.
Beaucoup
qui
trop.
Sont fiers d'avoir eu le vaccin. Puis, je suis d'accord avec toi, Martin, moi aussi, je me disais, beaucoup trop. Mon Dieu, mais c'est donc ben gossant, ces selfies-là.
Mais
on dirait que je comprenais
disais,
pas.
Le premier, tu disais, ah, OK, je comprends, c'est nouveau. Puis là, tu dis, ah, ben, finalement, c'est une mode.
Fait qu'on dirait que, honnêtement, là, de manière très franche, je jugeais ces personnes-là jusqu'à ce que, hier, je tombe sur un article vraiment intéressant qui a été publié dans le magazine américain The Atlantic. Okay. Eux, ce qu'ils disent, c'est à vrai dire, un médecin en unité pédiatrique qui a été vacciné, il a reçu ses 2 doses. Puis lui, écrit un texte en disant, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais après le vaccin? Est-ce que j'en parle? Est-ce que j'en parle sur les réseaux sociaux? Puis il dit, j'ai comme eu ma réponse quand, à la fin de ma vaccination, l'infirmière lui a posé la question, est-ce que vous voulez avoir votre photo pendant que vous vous faites vacciner?
Ah oui, hein?
C'est ce qu'on a posé comme question à ce médecin-là. Et il s'est mis à réfléchir à l'histoire de la médecine. Est-ce que ça a été important de démontrer que les vaccins ont une place qui a un peu changé le parcours de certaines maladies, qui a changé le parcours? Effectivement.
Ouais.
Fait que là, dans le texte, dans The Atlantic, il explique, par exemple, en 1953, le premier vaccin contre la polio. À ce moment-là, c'est un vaccin qui a été développé, qui est assez controversé quand même. Les vaccins, ça existe pas tant que ça à cette époque-là.
C'est plus jeune, forcément.
C'est plus jeune comme technologie, si on veut, entre guillemets. En plus, c'est un vaccin qui doit être donné par la bouche avec des petites gouttes. Bref, il se fait vacciner, il prend en photo, il met ça dans les journaux. Et finalement, il paraîtrait que grâce à cette photo-là, grâce à ce photojournalisme-là, il y a eu une vague de gens qui se sont fait vacciner.
C'est là que ça s'est répandu.
Ça s'est répandu suite à une photo qui était positive. Dans The Atlantic, le journaliste, le médecin plutôt, va encore plus loin que ça. Il dit, en 1901, il y a une image qui est parue dans un livre médical qui démontrait un jeune homme de 13 ans qui venait de pogner
grippe espagnole.
La varicelle.
La varicelle.
Puis à cette époque-là, ça a l'air vraiment niaiseux, mais en 1901, on ne sait pas comment guérir la varicelle.
Ah non, hein?
Puis on prend une photo de ce jeune homme-là, on le publie dans les journaux. Et ça a tellement eu un impact fort, parce que là, tout à coup, c'était 100% visuel, qu'on a développé par la suite des vaccins et des traitements pour la varicelle.
C'est ce qui a inspiré donc la recherche de vaccins.
Ça a inspiré la recherche.
Mais j'ai comme le feeling que tu me parles de moments où la photographie était quand même assez isolée. Là, on en a tellement.
Là, il y en a beaucoup.
Mais je comprends. En 56, Elvis Presley, il y a 21 ans à ce moment-là, il est dans le pic de sa popularité. Il se fait vacciner contre la polio. Ils ont vu un lien de cause à effet direct. Les gens sont allés se faire vacciner parce que Elvis Presley est allé se faire vacciner.
De Elvis à Patrice Roy, il y a comme un...
il y a comme
non,
un
mais
gap.
Quand même, n'en demeure pas moins
ben
que
oui.
la finalité de cet article-là, c'est de dire tout ce qu'il faut, c'est de montrer un modèle positif, de montrer que ça ne fait pas mal le vaccin, qu'il est accessible et surtout que par la suite, c'est la porte de sortie pour pouvoir être capable d'avoir une autre vie.
C'est drôle parce que j'ai posté, moi, ce matin, le contraire de ça. Moi, j'ai écrit, ce sera aujourd'hui et il n'y aura pas de photo. C'est ça mon post.
Mais écoute, alors, en théorie, on devrait.
Mais c'est la force du nombre. Hein. Le vaccin, c'est la force du nombre. Donc, de voir que l'autre le fait, c'est comme si on plonge tout le monde en même temps dans l'eau. T'sais.
Exact.
T'attends que les autres le fassent ou tu sais, justement, si les autres le font, t'as pas le choix d'y aller.
Tu sais, mettons, tu parles de Patrice Roy parce qu'il a fait le tour d'Internet parce qu'il était vraiment en chest. Exact. Sauf que si quelqu'un écoute tout le temps les nouvelles de Radio-Canada puis se fie à Patrice Roy puis qu'il voit que Patrice Roy, il y a une photo de lui en train de se faire vacciner puis que ça fait en sorte que c'est positif pour lui. Ben voilà.
Les gens ont eu le vaccin et se sont trimés à la suite de cette photo.
C'est ce qu'on a.
Pour plus de tes comiques, écoute 96.9 C'est quoi du lundi au vendredi dès 5h25 ou rends-toi sur c'est quoi.com.
C'est 23.